Vous écoutez RTL.
RTL.
Les parties génitales des hommes et femmes adultes sont souvent recouvertes de poils pubiens épais.
Jusqu'à 22h.
Ces poils peuvent être infestés par un petit insecte appelé poux du pubis lors de contacts sexuels ou du partage d'habits ou de literies avec un individu infesté.
La curiosité est un vilain défaut.
J'ai les arpions qui fouettent et des morpions plein les roupettes, des pellicules sur le crâne comme tous les gars de la campagne.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ah, quelle belle entrée en matière, André.
On est tous des gars de la campagne.
Ah, ça c'est clair. Dire. Des morpions, des poux, des tiques, des sangsues, des vers solitaires. Ces profiteurs n'ont vraiment pas bonne réputation. Ils nous écœurent même un peu. Mais comment vivent-ils? Nous sommes curieux de ce monde des parasites. Et on va en parler évidemment avec notre naturaliste de terrain préféré, Marc Giraud. Qu'est-ce que c'est un parasite? Il y a une définition?
Oui, c'est un profiteur en fait. C'est-à-dire c'est un être vivant qui profite d'un autre, qui le prend soit comme hôte, soit comme nourriture, soit comme les deux. Quoi. Mais il donne rien en échange.
Marc Giraud, est-ce que les parasites changent d'hôte? Est-ce qu'ils passent de l'un à l'autre? Quand ils en ont épuisé un, ils changent?
Oui, alors il y a plein de cas de figure. Hein. Il y en a, par exemple, les poux, c'est que les humains. Si il est sur un autre mammifère, il peut mourir le ventre plein, il ne boit que du sang d'humain. En revanche, il y en a comme les tiques qui peuvent aller du chat à nous, et il y en a d'autres qui, alors c'est ce qu'on appelle les parasites obligatoires, ils ne peuvent faire que ce trajet-là, c'est-à-dire par exemple, ils commencent dans un escargot, ensuite après l'escargot, il faut qu'ils rentrent dans une fourmi, ils téléguident la fourmi, c'est-à-dire qu'il la pousse à avoir un comportement complètement atypique, la fourmi va en haut d'un brin d'herbe, la tête en bas, complètement à garde, et elle attend qu'un mouton la broute. Donc, il la pousse au suicide, ça c'est la petite douve du foie. C'est-à-dire qu'un ver, il commence dans un escargot, il fait en sorte de se faire manger par une fourmi, il téléguide la fourmi, il prend les commandes, il la bug complètement, ouais. Et ensuite la fourmi se fait brouter par un mouton, et là c'est la douve du foie qui rentre dans le foie du mouton. Donc là, il y a trois autres complètement différents, quoi.
C'est hallucinant comme histoire.
Ah, c'est vraiment impressionnant.
On cite souvent le morpion, qui est un peu le porte-étendard des parasites.
Bah, c'est un titre accrocheur, c'est pour ça que j'ai choisi.
C'est ça. C'est quoi son nom latin?
C'est Phtirus pubis. Ou Phtirus inguinalis. Voilà, c'est son petit nom. Mais il a beaucoup de noms plus familiers. Morbac, Toto, Papillon d'amour, etc.
Ah, je connaissais pas. Papillon d'amour, c'est joli. Alors, comme son nom l'indique, il vit forcément dans le...
Alors, c'est son habitat principal, ou alors sous les aisselles. Il peut aussi être sur les cils, il survit sur les cils. Il survit
sur
pas sur la barre. Oui, notamment les gens qui font des cunnilingus. Il faut y penser, dans l'entourage de Napoléon III, il y avait un maréchal qui était connu pour avoir des poux sur les sourcils, pardon. Donc on connaissait ses mœurs, voilà. Et aussi, lors de l'accouchement, le bébé peut prendre les morpions si la mère en a. Donc le morpion a des morpions, quoi.
Ça se reproduit vite, un morpion?
Oui, ça va assez vite. C'est adulte en 8 jours, 8-10 jours. Ça s'accouple pendant 10 heures et après la femelle est bien fécondée. Elle pond 4 œufs par jour. Donc ça fait plusieurs centaines dans sa vie. Ça éclot au bout de 7-10 jours. Donc ça se multiplie vitesse grand V, quoi.
Est-ce que ça peut vivre hors des poils, un morpion?
Pas longtemps, ça survit pas longtemps. 24 heures maximum, donc faut pas fantasmer sur sur les toilettes publiques et tout ça. C'est pour en attraper, c'est vraiment très très rare. Hein.
Marc Giraud, avec la grande mode, en tout cas européenne, occidentale, de l'épilation et même de l'intégrale, les morpions ont disparu, ils sont en voie de disparition.
Oui, c'est le problème de la déforestation, là c'est intime, mais la disparition des zones humides, des forêts, de tout ça, c'est la cause de disparition des animaux. Donc le morpion, il morfle. Imaginez quand même que 80% des étudiants américains se rasent le pubis plus ou moins partiellement. Hein. Il y a le ticket de métro, il y a l'intégrale, il y a toutes les formes. Voilà. Donc le morpion, lui, morfle. En revanche, le poux, lui, il adore la mode des selfies. Parce que pour faire un selfie, on se rapproche, les chevelures se touchent, on fait un grand sourire. Et pendant ce temps-là, les poux, ils sautent d'une chevelure à l'autre. Et voilà, c'est la grande migration des poux. Donc le poux se porte bien et le morpion moins bien.
Le poux se porte bien et il aime bien le sexe, le poux aussi. Il aime bien faire l'amour.
Ah oui, les époux-poux, ils aiment ça, oui. Déjà, ils sont bien dotés. Hein. Ils ont 4 gros testicules, mais vraiment gros testicules. C'est-à-dire qu'un humain aurait 5 kilos de bonbons. Le pénis aurait la taille d'une cuisse. Et en plus, il copule à longueur de temps. Quoi. On en a observé un qui faisait l'amour avec 18 femelles sans s'arrêter. Et on ne les observe pas tous. On imagine qu'il y en a qui font mieux. Puis ça donne faim. Donc ça boit énormément de sang. Le sang prélevé chaque jour par un poux, ça équivaut, alors encore pour un humain de 70 kilos, ça ferait 40 kilos de nourriture quoi chaque jour. Donc ça pompe.
La puce qui vit sur l'homme, elle est plus forte que les autres. Elle a quoi comme capacité physique?
C'est costaud la puce parce que ça doit sauter. Déjà, c'est une forme, vue de face, c'est comme une feuille, c'est très 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 fin pour passer entre les poils, quoi. C'est un peu comme un brise-glace, et ça saute énormément, donc ça peut sauter 100 fois sa taille. Pour un humain, ça ferait à peu près 200 mètres de haut, quand même. Ça tire 400 fois son poids, donc pour un humain, ça ferait 30 tonnes, donc c'est du costaud, hein. Et c'est pour ça qu'avant, on en mettait dans les cirques, on faisait des petites puces apprivoisées qui tiraient des chariots. La grand-mère d'Edith Piaf, dans les années 20, était dresseuse de puces.
Bon, c'est passionnant, Marc Giraud, comme d'habitude, au micro des RTL et de la curiosité.
On a plein d'autres histoires
de
parasites.
Mais oui, bientôt, dans notre cabinet de curiosité, on va faire rentrer les tiques, les sangsues et les vers solitaires. Vous restez ? Bah oui, vous êtes des curieux, évidemment.
On est bien entre curieux sur RTL. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Et dans la curiosité, on découvre tous les secrets des parasites, des monstres, avec la musique qui va avec, grâce à Marc Giraud, naturaliste de terrain, écrivain spécialisé en zoologie. Vous publiez, Marc, La vie rêvée des morpions et autres histoires de parasites aux éditions L'Humour et dans le pré de la Chaux et Niestlé.
Je vois que vous grattez depuis le début, là, mais j'ai pas apporté ma doc. Hein.
C'est psychologique. Dès qu'on parle de puces, de pouces, et on se gratte. Parmi les nombreux parasites qui profitent de leur hôte, donc, pour vivre et se nourrir, il y a la tique. Alors la tique, moi je pense tout de suite aux chiens, aux chats, qui, moi je me souviens que mes chiens en avaient. C'est quoi la tique? C'est un insecte?
Non, c'est un acarien en fait, c'est la famille des araignées. Ouais. Et les tiques attaquent tout en fait, hein. La tique tacle. c'est-à-dire que vous pouvez attraper les mêmes que celles du chat ou du chien, elles sont pas regardantes, hein, comme les poux, elles accrochent tout ce qui bouge un peu. Voilà. Elles ont une drôle de vie parce qu'elles voient pas, quasiment pas, elles entendent pas. Elles ne perçoivent pas grand-chose, sinon les vibrations, l'odeur du gaz carbonique de la respiration. Et c'est à peu près tout, c'est une drôle de vie, tique.
Mais parce que aussi, la vie de la tique, c'est de passer sa vie la tête dans une jambe, ou dans un bras, terrible. Ou dans une tête. Quoi.
Voilà, la tête enfoncée dans de la chair, et ça ne bouge plus, et ça gonfle, et puis après ça tombe.
C'est nul comme vie.
Bah oui, les morpions c'est pareil, hein. C'est pour ça que j'ai appelé ça la vie des rêves et des morpions, il n'y a pas de quoi rêver finalement. C'est très très restreint la vie d'un parasite. Voilà, ça bouffe, ça tombe, ça meurt. Bon, c'est
et
tout. Puis,
et dans votre livre, vous dites qu'il y a une tique qui peut jeûner pendant 5 ans, c'est
ah
ça?
Ah oui, bah ça doit être patient quand ça rencontre pas de... Voilà, c'est fait pour survivre, parce que si elle pouvait pas jeûner plus de 2-3 jours, bah il y aurait plus de tiques. Hélas, elles sont bien adaptées au fait qu'elles rencontrent pas forcément, elles sont pas forcément sur le bon chemin, elles sont très petites, il y a beaucoup de hasard, hein, donc ça peut attendre 5 ans en effet.
Et la reproduction de la tique, c'est assez particulier aussi, surtout pour les mâles. J'ai l'impression que les tiques se faisaient un peu décapiter, les mâles, non ?
Oui, bah ils en meurent, hein. C'est rapide. Bah, ils ont accompli leur mission, donc après on n'en a plus besoin. Une fois que la femelle est féconde, elle n'a plus besoin de lui. Donc il faut qu'elle s'accroche à nouveau à une deuxième victime, et là elle devient énorme, énorme. On en a pesé une qui faisait 624 fois son poids après son petit souper. Encore une fois, une comparaison avec un homme de 60 kilos, il aurait mangé 37 tonnes quand même. Donc ça gonfle, hein, vous voyez, parce que c'est tout petit quand c'est pas encore gonflé, puis ça devient comme un bon grain de raisin sec, comme une cerise pour certaines espèces. Hein.
Ouais. Et ça se gonfle de sang en fait.
Ah, que de
ça
sang.
Ne se nourrit que de sang.
Que ça. C'est des petits vampires.
Ouais. Ça transmet des maladies, les tiques?
Ah oui. Ouais. Oui. Pour moi, c'est l'animal le plus dangereux de France, c'est la tique. C'est pas le loup, c'est pas le renard, c'est pas ce qu'on veut. C'est la tique parce que ça transmet une maladie qui s'appelle la borreliose de Lyme. Les symptômes sont bizarres, ça peut être des symptômes d'arthrose, de tas de choses, de problèmes digestifs. Donc c'est pas facile à diagnostiquer, c'est pas facile à soigner non plus. Et il y en a de plus en plus, il y en a même à Paris, au Bonne-Vincennes maintenant. Moi qui suis toujours à quatre pas dans l'herbe à photographier des petites bêtes, j'en chope souvent et c'est la loterie.
Marc Giraud, vous passez votre vie à quatre pattes, le nez dans les herbes, c'est ce que vous nous racontez. Ça nous donne une belle image de vous, tiens donc. Et vous avez déjà rencontré...
La dernière fois, j'avais le nez dans les bouts. Donc...
C'est vrai. Est-ce que vous êtes tombé nez à nez avec des sangsues?
Ah oui, oui, quand j'étais petit à Paris, dans un caniveau, et comme j'étais passionné de nature, j'avais ramené ça dans mon aquarium à la grande joie de mes parents, qui avaient déjà une taupe dans le congélateur et différentes...
c'est une histoire de famille,
oui. Oui, voilà.
C'était vous qui les aviez rapportés, les sangsues.
C'était le cadeau de ma prof de science, qui trouvait que j'avais beaucoup de talent.
Alors ça ressemble à quoi une sangsue?
Bah, c'est une sorte de ver assez élastique, un peu comme un ver de terre, mais un peu plus sombre, mais aquatique.
Alors, ça n'a pas de tête? Pas de cervelle.
Alors ça, oui, ça n'a pas de cervelle, ça n'en a pas besoin. Ça a 10 yeux qui ne marchent pas beaucoup. Ça a 2 cœurs, 2 ventouses, 3 mâchoires, 9 paires de testicules, quand même, s'il vous plaît.
Ça sert à
2 ovaires et un vagin. bon, ça, c'est plus classique à la fin, mais comme elle a tout le matos, ça veut dire qu'elle est hermaphrodite, quoi. C'est mâle et femelle en même temps, quoi. Comme les escargots. Donc, elle peut s'accoupler quand même pendant plusieurs heures. Voilà, c'est une bête de sexe aussi. Elle peut jeûner pendant un an, c'est pareil, il faut que ça soit patient. Mais en revanche, quand elle boit, elle peut pomper 3 à 10 fois son poids en sang.
Mmh. Et vous racontez une histoire absolument terrible dans votre livre. Au XVIe siècle, qu'est-ce qu'elles faisaient les femmes galantes qui avaient perdu leur virginité?
C'était des grosses malignes.
Pour tromper leur mari voilà. La nuit de noces.
Alors pour la nuit de noces, elles se mettaient des sangsues où il fallait. Et donc sous les assauts de leur mari, il y avait le sang qu'il fallait pour prouver leur vertu. Voilà.
Heureusement que tout ça, c'est quand même tombé en désuétude. Hein.
Ouais, les femmes galantes. À lire dans La vie rêvée des morpions, aux éditions de la
Chouinier. C'est intéressant ces petites bêtes.
Ah,
hein.
Bah oui.
Et le vers solitaire, déjà il ne vit que dans l'homme.
Alors, il y a des vers solitaires de plein d'animaux. Hein.
D'accord.
Par exemple, on dit souvent que la baleine, c'est le plus long animal du monde, avec un peu plus de 30 mètres, mais son vers solitaire, il fait 50 mètres. Et puis, un vers solitaire, c'est des petits segments détachables. Et dans chaque segment, il y a plusieurs sexes féminins et masculins aussi, pareil. Et le vers solitaire de la baleine, lui, il a 630 000 sexes quand même. C'est, voilà, il a des chances de se reproduire avec ça. Parce
c'est
que,
plusieurs animaux, alors je comprends pas en un seul.
Non, c'est un animal détachable. C'est une espèce de ruban détachable. Chaque petit segment s'en va par l'anus de l'hôte. Hein, ceux qui en ont eu le savent.
En kit, en fait. C'est un animal en kit.
Voilà, c'est ça. Donc l'avant, c'est une espèce de toute petite tête qui est accrochée avec 4 ventouses sur l'estomac qui mange la nourriture de son hôte. Et l'arrière, c'est les segments sexuels qui s'en vont pour se reproduire dans la nature.
Comment ça s'attrape, ça, le vers solitaire?
Alors, avant, ça s'attrapait beaucoup avec le porc. Maintenant, c'est plutôt l'espèce du bœuf qu'on attrape, mais il y a beaucoup de contrôles sanitaires.
Attendez, il y a un commerce sur Internet, j'ai découvert ça dans votre livre, Marc Giraud, d'œufs de vers solitaires, mais pourquoi faire?
Peut-être que Kate Moss en a usé. Hein. C'est-à-dire que comme ça mange toute la nourriture de son hôte, l'hôte maigrit. Donc, il y a eu pendant un moment, sur Internet, c'est peut-être encore...
Quelle folie.
Voilà, on mange des œufs d'œufs solitaires, de vers solitaires, comme ça, on pense qu'on va maigrir, mais je trouve ça un peu glauque comme...
Voilà. Un peu, c'est un euphémisme.
Ah oui, on peut le dire. Bon, alors, on a fait le tour des... On a fait le tour des parasites, mais maintenant on va raconter l'histoire de leurs hôtes, ceux qui les accueillent. Comment font-ils? Qu'est-ce qui leur arrive?
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Paraît qu'on a tous le typhus, on a le pétrus tout boutonneux. Et le soir avant de se mettre au pieu, on compte à celui qu'en aura le plus.
Ah, c'est des bons souvenirs, hein, les colonies de vacances. Des bons souvenirs et des poux. Bravo. Des parasites, il y en a dans la faune, il y en a sur les animaux, mais il y en a aussi sur les plantes.
Mais il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Hein. Plus de la moitié des êtres vivants, ça comprend tout. Hein. Les plantes, les animaux, les champignons. Donc oui.
Plantes vampires, c'est quoi?
Plantes vampires, c'est les plantes qui sucent la sève. Alors pas le sang, mais la sève des hôtes. Et une des plus mystérieuse, c'est la cuscute.
Pardon?
La cuscute.
Ah. C'est un bon mot pour faire des contrepétries, ça, la cuscute alors.
Voilà, la cuscute discute avec les autres,
oui.
Et c'est presque magique, parce qu'il faudrait l'imaginer à l'accélérer. C'est une plante qui se dresse, on dirait des sortes de spaghettis comme ça, qui se dirige, qui sentent autour d'elle s'il y a une victime, qui se dirige vers leur hôte, et si jamais c'est pas la bonne, qui repartent en arrière, etc. On sent vraiment la plante qui réfléchit, et une fois qu'elle a trouvé une victime, alors là, elle enfonce des dizaines de suçoirs, elle lui pompe les substances nutritives jusqu'à la tuer. Hein. Mais en même temps, elle se branche sur elle, c'est pour ça que la cuscute discute, et elle communique chimiquement avec son hôte. C'est très étrange.
Ça va, ça va? Bah oui, je suis un peu fatiguée, c'est
oui.
Ça
c'est non, c'est des échanges chimiques, ouais. Et même des échanges, par exemple, les virus, c'est des petits morceaux d'ADN, ça transforme son hôte. Nous-mêmes, on a à peu près 10% de notre ADN qui vient de virus de nos ancêtres, de maladies qu'ils ont attrapées.
Bon, l'épilation, on a vu, a éradiqué en Europe les morpions, enfin en tout cas une bonne partie. Qu'en est-il des autres parasites? Est-ce qu'ils ont des beaux jours devant eux?
Bien sûr, évidemment, surtout avec le réchauffement climatique, tout ce qui est amené par les moustiques, tigres et autres, on sait que ça... le paludisme dont on s'est débarrassé, il va revenir au galop. De toute façon, c'est une course qui est perdue d'avance parce que les parasites, ils se multiplient très vite, ils mutent très vite. Donc si on met des des produits chimiques, il y aura toujours une petite souche résistante qui va résister. Et c'est là le problème, c'est qu'on n'est pas assez fort. Je ne sais pas si vous vous rappelez le dessin animé de Walt Disney, Merlin l'Enchanteur, qui se bat contre la sorcière Mime. Mmh. Donc elle triche parce qu'elle n'a pas le droit de faire des animaux qui n'existent pas. Donc il se transforme en animaux pour se battre. Et à un moment, elle triche, elle se met en énorme dragon. Et lui, il se transforme en virus de la grippe et c'est lui qui gagne. Et ben là, c'est ce qui nous pend au nez.
Et la déforestation aussi, j'imagine, favorise l'expansion des parasites.
Oui, c'est ça le problème. Quand on va sur la Lune ou sur Mars, on prend énormément de précautions parce qu'il y aurait peut-être des choses toxiques pour nous, etc. Mais quand on déforeste en Asie, en Afrique ou ailleurs, on atteint des milieux absolument inconnus avec des animaux qui ont des maladies qu'on ne connaît pas. Et c'est comme ça que le VIH, Ebola et plein de virus et de maladies sont apparus à cause de la déforestation.
Ah, puis ça m'a vraiment surpris dans votre livre La vie rêvée des morpions. Vous dites que le Botox est l'un des parasites les plus dangereux du monde. C'est une blague ?
Ah non, c'est pas une blague. Son petit nom intime, c'est Clostridium botulinum. 2 kilos seulement de ces bactéries feraient disparaître l'espèce humaine entière. Donc c'est le plus dangereux de tous les parasites. C'est très, 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 très toxique. Alors avant, il y en avait dans les viandes avariées ou des choses comme ça. On a fait des progrès, on s'en débarrasse, mais on en a des souches. C'est 40 fois plus dangereux que le cyanure quand même. Ça provoque la paralysie, donc l'arrêt respiratoire très, très rapidement. Et quand on prend une toute petite quantité et qu'on la met dans les rides, par exemple, ça empêche les rides de s'affaisser et c'est ça le botox. Donc en fait, ce parasite le plus dangereux du monde, il y en a plein dans la peau des stars, voilà, et ou dans les quartiers riches, on en a beaucoup des sourires qui sont un peu figés.
Parasité. Voilà.
Merci beaucoup.
Marc Giraud, c'était formidable. La vie rêvée des morpions et autres histoires de parasites avec de très jolis dessins et très drôles, surtout de Roland Garrigue. Et tout ça, c'est aux éditions de la Chaux-Nestlé.
C'est la fin de cette émission. Mais alors, avant de se quitter, Sidonie, une nouveauté, on va jouer.
Chic, alors c'est nouveau, désormais chaque week-end, on va vous poser une question qui vous permettra de gagner un beau cadeau.
Bon, lundi, écoutez bien, lundi on était au Grand Palais, en direct, pour une émission spéciale consacrée à Auguste Rodin. Alors, en réécoutant le podcast de l'émission sur RTL.fr, vous pourrez répondre à la question suivante.
Quel genre de dessin Rodin conservait-il dans une boîte secrète ? Quel genre de dessin Rodin conservait-il dans une boîte secrète ? Vous nous envoyez votre réponse à lacuriosité@rtl.fr ou alors vous avez vos petites habitudes, vous connectez sur la page de la curiosité rtl.fr.
Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et il remportera 2 entrées pour aller au Grand Palais et le catalogue de l'exposition Rodin. Bonne chance
à
tous.
Cette expo. Ouais, on se retrouve demain les amis à 14h dans un instant, place au grand studio d'Éric Jean-Jean, spécial méditerranéenne avec Julie Zenati et Chimène Badi. Ça va Eric Jean-Jean ?
Bonjour, mais merci de m'accueillir vite fait avant que je descende dans le grand studio. C'est un grand studio exceptionnel avec justement des chansons classiques du répertoire méditerranéen. Ça va d'Italie à la Grèce en passant par l'Algérie et tout ça. Et c'est magnifique.
On vous embrasse.
Allez, on reste sur RTL.
Salut les copains.
Bon après-midi. Ciao Eric. Et à demain.